Du lundi au vendredi, de 9h à 10h, on en parle sur RTS La Première.
Depuis lundi, on découvre des épices peu ou mal connues comme la cardamome, la coriandre ou le curcuma. Aujourd'hui, place au massis. Le nom ne vous dit rien et pourtant je suis prêt à parier que vous en avez déjà mangé. Le massis, le voici dans une recette proposée par le cuisinier Jérôme Binder, directeur de parfum d'épices à Crissier. Il est en compagnie de Kurt Stöttmann, professeur honoraire de phytochimie et spécialiste des plantes médicinales. Et tous deux sont en cuisine avec Maya Chollet.
Alors, on va utiliser le massis. Le massis, donc, c'est la fleur de muscade. Simplement, c'est la peau qui entoure la noix de muscade. Cette épice qu'on appelle massis, effectivement, est assez méconnue ici en Suisse, mais se trouve dans beaucoup de préparations, que ce soit dans des currys indiens, des currys thaï. Ça pousse beaucoup en Indonésie. Et après, ça s'est répandu voilà, dans toute l'Asie. Ce qui est étonnant et rigolo à connaître, c'est que nos bouchers utilisent le massis dans la saucisse au chou. Alors voilà, comment c'est arrivé dans nos saucisses au chou? J'imagine que voilà, à l'époque, je pense que l'épice était aussi un moyen de paiement finalement, et peut-être que voilà, ça s'est retrouvé sous nos latitudes à travers un échange, et finalement les bouchers se sont retrouvés avec cette épice-là et se sont dit bah pourquoi pas, on va en mettre dans notre saucisse au chou. Hein.
C'est un moyen de conserver les viandes aussi ou de masquer le goût, enfin quand elles sont en mauvais état, quand on met beaucoup de poivre de Cayenne.
Alors Jérôme, là vous avez préparé un plateau mais plein d'épices différentes.
Voilà, puisqu'on va faire un curry thaï, un curry de Penang. Mais on va avant tout donc torréfier un certain nombre d'épices sèches dans cette préparation. Et on a notamment le fameux massis. Mais on va aussi ajouter les graines de coriandre, la cardamome, le cumin et deux types de poivre. Et donc ces épices entières, on va les torréfier dans une poêle à sec, sans huile. Donc, peut-être quelques mots sur le curry. C'est vrai que c'est un mot générique qu'on utilise dans beaucoup d'occasions. On pense, quand on dit curry, à un mélange d'épices, hein, mais en fait, c'est faux. Hein. Le mot curry vient du tamoul, curry, qui veut dire plat mijoté. C'est les Anglais, au retour des colonies, qui ont repris ce terme curry, finalement plat mijoté. Effectivement, voilà, les familles sur place font leur propre mélange et l'intègrent à ces plats. Les Anglais en ont fait un mélange standard d'épices, de couleur jaune qu'on retrouve dans les supermarchés, qu'on appelle curry. Mais en fait, c'est faux. Si on parle de mélange d'épices, il faudrait appeler ça masala. C'est pour ça qu'on dit un curry masala ou un garam masala, qui est un autre mélange d'épices. Un garam masala veut dire mélange d'épices chaudes, c'est-à-dire avec du poivre, de la cardamome, de la coriandre, etc. Là, en l'occurrence, on va faire une pâte de curry, puisque c'est une préparation thaï. On va partir sur une base aromatique d'épices sèches, qu'on va torréfier, comme on a déjà appris un petit peu sur les épices. On va les torréfier à la poêle, sans huile, sans rien. Et puis, on va les passer après au pilon. Et ensuite, on va ajouter toute une base d'aromatiques, d'herbes fraîches, qu'on va aussi pilonner, ce qui en fait une pâte. Donc la différence entre une poudre de curry et une pâte de curry, c'est qu'effectivement la pâte de curry intègre, au-delà des épices sèches, des condiments frais, principalement ici de la citronnelle, de la racine ou de la tige de coriandre, du galanga, qui est en fait un petit peu le gingembre thaï, hein, on utilise pas le gingembre dans la cuisine thaï, mais le galanga qui est aussi un rhizome.
Toutes ces épices, vous les trouvez où? Est-ce que les gens ils peuvent les trouver en grande surface aussi?
Les feuilles de kéfir, ou le galanga, ou les racines de coriandre, vous allez trouver plutôt ça dans les épiceries asiatiques, thaï. Pour ce qui est des épices sèches, maintenant de plus en plus de supermarchés les proposent. On va pas forcément trouver du massis dans les grandes chaînes de supermarchés, mais voilà, chez l'épicier indien, vous allez retrouver toutes ces épices facilement. Donc la fameuse star ici, je trouve que c'est assez beau le massis. Voilà, on est sur des teintes entre l'orange, le rouge, jaune foncé. Et puis c'est vrai que si vous sentez, voilà, on retrouve cette odeur de muscade. Hein. C'est un peu plus léger et c'est un peu plus subtil. C'est pas une épice qui se mange comme ça par plaisir cru. Hein.
Il est un peu perdu de couleur, il est un peu plus rouge d'habitude, non?
Alors, effectivement, le massis frais, alors c'est très rare de l'avoir frais. Moi, j'ai eu la chance de le voir en Indonésie dans une plantation. C'est magnifique, c'est vraiment un rouge vif qui entoure la noix de muscade. En fait, quand vous avez votre noix, vous ouvrez la cosse. Et à l'intérieur, vous avez la noix. Et tout autour, vous avez cette peau qui entoure la noix, qui est rouge.
C'est un aspect un peu de fleur séchée.
Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça fleur de massis. Après,
c'est
effectivement,
pas une fleur, oui, on appelle fleur.
Fleur de Massy, effectivement. C'est méconnu et c'est intéressant et c'est beau. Donc on va torréfier ici le cumin. On va mettre aussi des capsules de cardamome. Là, en l'occurrence, on les met entières. Et le massy, aussi entier. Ce que je ne vais pas torréfier, ce sont les poivres. Le poivre n'aime pas la chaleur forte. Effectivement, on perd un petit peu les aromatiques et donc on va éviter de le torréfier, le poivre.
Comment on sait quand c'est fini la torréfication d'une épice ?
Alors, il faut qu'elle ait une petite couleur dorée, mais il ne faut pas qu'elle devienne noire, hein, qu'elle noircisse, parce qu'après, ça donne un côté amer qui ne va pas être bon. Et puis, j'imagine aussi, d'un point de vue vertu, on perd toutes les vertus si c'est trop torréfié. Il faut quand même arriver à un stade où voilà, la petite graine de coriandre, notamment, devient un petit peu dorée comme ça. Le massy va moins teinter, il va simplement devenir plus friable, et puis on va aussi décupler l'aromatique.
Ça crépite.
Exactement. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Hein. Alors, là, on va stopper le feu. Et puis, on va donc verser toutes ces... toutes ces épices dans le mortier.
J'ai aussi goûté la fleur de massy, donc l'enveloppe de la noix de muscade. Et puis, ça m'a endormi la bouche.
Oui, ben pareil. Ouais. Ça, ce côté, alors un petit peu anesthésiant. Alors, je ne sais pas, d'un point de vue pharmacologique, si Cour peut nous en dire un peu plus.
On trouve la muscade dans des drogues d'origine naturelle. On a remarqué ça depuis longtemps déjà. Par exemple, souvent les enfants, quand on râpe la noix de muscade, eh bien, les filles étaient un peu bizarres, un peu excitées, survoltées. Et puis en fait, il y a un effet psychoactif qui est assez grand dans la noix de muscade. C'est classé dans les substances psychoactives. Elle n'est pas interdite. C'est pour ça que des jeunes, quand ils n'ont pas assez d'argent pour acheter du cannabis ou autre chose, eh bien, ils vont dans un supermarché, ils achètent des noix de muscade. Le seul problème, l'effet psychotrope se met en route lorsqu'on a mangé à peu près 10 grammes. Et puis en même temps, c'est un effet toxique qui se met en route aussi. Donc c'est un truc qu'il ne faut pas faire, mais c'est connu depuis très très longtemps. Une noix profite, deux noix nuisent, la troisième noix tue. Et c'est déjà au Moyen-Âge qu'on savait ça. Et puis on a eu pas mal de problèmes, par exemple à l'époque, maintenant un peu moins, dans le milieu carcéral. Eh bien, le cannabis était contrôlé, mais pas les noix de muscade. Alors les gens, des prisonniers qui ont été intoxiqués à cause de ça. Et puis alors, elle est aussi considérée, peut-être à tort, comme abortive. Alors il est déconseillé aux femmes enceintes de prendre ou de manger trop de muscade parce qu'elle pourrait avoir des fausses couches, enfin, ou un accouchement prématuré. C'est une épice assez difficile à utiliser, mais dans la cuisine, les quantités que le chef utilise, il n'y a aucun problème.
Mais finalement, peut-être, pourquoi la noix de muscade est arrivée dans la purée de pommes de terre ? C'était peut-être pour calmer les enfants, hein, une petite râpée de noix de muscade. Ouais. Et finalement, ça les calmait, je ne sais pas.
Oui, oui. Une petite dose, ça peut être calmante, et puis une dose plus forte, ça devient un excitant.
Et ça vient d'où ? De quel pays ?
Ça vient de l'Indonésie, ça vient des îles Moluques. Ils la cultivent bien sûr aussi, mais elle pousse à l'état sauvage sur l'île de Java, sur toutes les îles indonésiennes, et il y en a. Non, c'est un arbre qui atteint 2-3 mètres de haut en tout cas.
Comme un petit olivier.
Voilà, je pense, même peut-être un peu plus grand.
Ouais.
On utilise aussi les feuilles de cet arbre ?
Non, pas du tout. Pas du tout.
Non.
Jérôme Binder, cuisinier, et Kurt Stöttmann, spécialiste des plantes médicinales, au micro de Maya Chollet. On y retourne pour la suite de la recette initiée tout à l'heure, celle d'un curry de Penang à base de massy, l'épice vedette d'aujourd'hui.
Alors,
donc ici on a nos épices qu'on a torréfiées, qu'on a mis au fond du mortier, et on va donc maintenant les pulvériser en poudre.
Thank you.
faut vraiment que ce soit une poudre fine. Et en fait, tous les ingrédients qu'on va intégrer après dans le mortier pour en faire une pâte, il va falloir les couper tout fin. Donc là, on a quasiment tout pulvérisé. Maintenant, on va préparer les autres ingrédients. Donc on va émincer l'échalote, la partie du bulbe de la citronnelle, parce que c'est la partie qui est aromatique, c'est le bulbe, la racine de coriandre, ou là, en l'occurrence, les tiges de coriandre qui fonctionnent aussi très bien. On va mettre le galanga.
Si les gens n'ont pas votre maîtrise du couteau, est-ce qu'ils peuvent mettre ça dans un mixeur?
Alors oui, oui et non. Pour se simplifier la vie, on pourrait mettre toutes les herbes fraîches dans un mixeur et puis les mixer. Mais on n'aura pas le même résultat, pour être honnête, parce que le pilon, il va écraser les fibres après. Donc on va faire sortir les huiles essentielles d'une autre manière. Après, si on le passe au mixeur, il va falloir rajouter un petit peu d'eau. Et puis le fait aussi de le passer au mixeur, on va chauffer les herbes et on va oxyder un peu la préparation. Et c'est pas idéal. C'est pour ça que une bonne pâte de curry se fait vraiment dans des mortiers. Alors en Thaïlande, eux, ils prennent des grands mortiers en bois avec un énorme pilon. Ils mettent ça entre les jambes et puis ils pilent ça, voilà. Pendant des heures. Ils sont assez à cheval sur vraiment le résultat de la pâte de curry, qui doit vraiment être une véritable pâte et pas simplement des morceaux émincés et mélangés. Une pâte de curry maison, si vous en faites une fois, vous n'allez plus vouloir en acheter. C'est vraiment excellent. Et surtout, ça se congèle très bien, donc vous pouvez en faire en grande quantité et puis ensuite le mettre dans des petits bacs à glaçons.
Et le petit secret avec le pressail?
Oui, bah là, c'est vrai, dans le pressail, j'ai mis la gousse d'ail non pelée. De toute façon, le pressail va nous faire sortir la pulpe. Et puis finalement... une pâte de curry, elle est crue. Donc il va falloir la cuire. Tous les aromatiques qu'on a mis dedans. Si vous mangez comme ça à la cuillère, ça va vraiment pas être bon. Ça va être amer, ça va être astringent. Donc on va devoir faire suer cette pâte de curry. Alors soit dans une matière grasse, ça peut être de l'huile, ou en l'occurrence ici, on va réduire un peu de lait de coco, et puis on va passer cette pâte dans le lait de coco et la faire cuire. Et ensuite, on va rajouter notre poulet. Ici, on a du poulet, on a un haut de cuisse désossé. C'est vrai que le haut de cuisse désossé, il est intéressant dans les plats mijotés, parce qu'on a un petit peu de gras. Par rapport à un suprême de poulet qui va être un peu plus sec. Et c'est aussi valoriser d'autres pièces de la volaille qu'on a peut-être un petit peu moins l'habitude. Là, en l'occurrence, comme c'est une viande qui va être bouillie dans le curry, on va retirer la peau, on va le blanchir un petit peu, l'imbiber de cette pâte de curry. Et puis, on va laisser cuire comme ça, mijoter le tout. On sale avec la sauce poisson en Thaïlande, le Nyok Man. Donc c'est du poisson séché, mariné, forme liquide. Et c'est vrai que voilà, ça a une odeur des fois un petit peu désagréable quand on passe le nez dessous. Oui. Mais c'est vraiment intégrant des saveurs thaï. Et une fois que ça cuit, l'odeur désagréable s'évapore aussi.
On pourrait utiliser cette pâte simplement en mettant sur un poisson et puis dans le four?
Ça a quand même besoin un petit peu de matière grasse pour diffuser les arômes. Il faudrait quand même rajouter un petit peu de lait de coco. J'ai un peu peur qu'au four, ça grille en fait, mais que ça devienne assez désagréable sous la dent. On a une couleur un petit peu brun comme ça, brunâtre, qui vient aussi justement des épices sèches qu'on a torréfiées, et principalement du massi aussi, qui donne quand même cette couleur. Chaque curry thaï a des couleurs différentes. Le curry rouge, effectivement, on met pas mal de piment rouge séché, ce qui donne la couleur rouge. Le curry vert, on met du basilic thaï qui va donner la couleur verte. Cette préparation, on va rajouter le reste du lait de coco et laisser mijoter comme ça. Aussi, un ingrédient qu'on va rajouter dans le curry que je n'ai pas mentionné, c'est du sucre. Normalement, on met du sucre de fleur de palme, comme le sucre de canne aussi pareil, qu'on peut aussi trouver non raffiné. Et ben là, on trouve la même chose en Thaïlande et en Indonésie, où on a beaucoup finalement de palmiers. Et quelques pousses de soja, on en gardera un peu pour mettre dessus cru. Et on va en mettre quelques unes aussi dedans pour la cuisson. Et enfin, le sucre. on va mettre... Ça cuit assez vite, hein, c'est une vingtaine de minutes. Après, on est sur du haut de cuisse, ce qui fait que ça demande un tout petit peu plus de temps de mijotage qu'un suprême. Mais voilà, c'est pas très très long non plus. On va couvrir et attendre.
Jérôme Bader, cuisinier fondateur de Parfum d'épices à Crissier, au micro de Maya Chollet. Et la recette est à retrouver sur notre page web du jour, rts.ch/on en parle. Demain, dernier épisode de cette série sur les épices, il sera dédié au poivre Sichuan.